Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs. Le monde célèbre le 25 avril, la journée mondiale du paludisme. Dans son message en marge de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies salue les nombreux partenaires dévoués dont l'action concertée a permis de sauver pas moins de 3 millions de vies depuis 2000, réduisant ainsi à plus de 40% le taux de mortalité dû au paludisme dans le monde. Que proposez-vous pour éradiquer d'une manière efficace cette maladie en RDC? Nous en parlons avec deux invités d'une manière exceptionnelle dans cette émission. Docteur Albert Lukoka, directeur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. Et nous avons dans ce studio Dr Leonard Kwadio, spécialiste santé et chargé de la malaria à l'UNICEF. Berry Franklin Luchaka assure la réalisation de cette émission mise en onde par Sylvain Matundu. Pierrot et Lamenji vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Lamenji.
D'un moment à l'autre, nous aurons dans cette émission Dr Albert Lukoka, directeur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. En attendant, nous avons dans ce studio Dr Leonard Kwadio. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Capi pour parler du paludisme. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui représente aujourd'hui le paludisme en RDC, que ce soit en termes de mortalité en RDC aujourd'hui?
C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez d'échanger avec les populations sur cette maladie grave qu'est le paludisme. Donc, pour revenir à votre question, il faut dire que selon les statistiques, en RDC, le paludisme tue chaque année environ 81 400 enfants de moins de 5 ans. Je vais insister sur les enfants de moins de 5 ans. Mm-hmm. Comprenez que c'est surtout là notre mandat en tant que UNICEF. Mm-hmm. Et donc nous allons certainement tourner autour des femmes et des enfants. Ok. Donc, cela est donc cette mortalité donc représente à elle seule la mortalité que pourrait engendrer la diarrhée, la rougeole, tout ensemble. Mm-hmm. Vous voyez donc c'est assez grave. Donc un tel niveau de prévalence est synonyme d'environ 3 à 5 épisode de paludisme par enfant par année, vous voyez. Mm-hmm. Et sur le plan toujours de la morbidité, le paludisme représente à peu près le tiers des motifs de consultation externe dans les hôpitaux en RDC. Mm-hmm. Ensuite, on peut dire aussi que le paludisme est la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans, et elle est responsable d'une proportion assez considérable aussi de décès chez les enfants plus âgés.
Mm-hmm. Oui, ça c'est par rapport aux chiffres. On sait que l'UNICEF appuie la RTC dans la lutte contre cette maladie. Et vous, en tant que partenaire, comment appréciez-vous les efforts qui sont fournis dans la lutte contre le paludisme?
Bien, je dirais que beaucoup est fait, mais en même temps, beaucoup reste à faire. Parce que nous sommes aux côtés du ministère de la Santé plus particulièrement du programme national de lutte contre le paludisme au quotidien. Et l'UNICEF intervient surtout dans la mobilisation des ressources en faveur donc de cette maladie. Donc quand je parle de mobilisation des ressources, bien sûr, c'est à travers les partenariats divers au niveau international. Ensuite, au plan pratique sur le terrain, l'UNICEF appuie les différentes phases de la lutte, notamment au niveau de la phase de prévention. Nous appuyons le pays dans l'organisation des campagnes de distribution gratuite de moustiquaires. Ensuite, nous participons à la mobilisation des communautés pour que les moustiquaires distribués soient effectivement utilisés. Ensuite, nous avons un programme avec les collègues du programme Eau Hygiène Assainissement. Nous avons un programme dénommé Village Assaini, qui consiste, n'est-ce pas, oui, à mobiliser les communautés pour assainir, n'est-ce pas, leur milieu. Ça, c'est au niveau de la prévention. Et au niveau de la prise en charge, nous assurons la fourniture en médicaments pour la prise en charge des cas. Et également, nous appuyons la lutte contre les épidémies en cas de flambée de fièvre, avec des intrants, avec des médicaments. Donc, globalement, voilà. Sans oublier, bien entendu, l'appui technique que nous apportons à toutes les activités que mène le programme sur le terrain.
Et vous avez dit, il y a beaucoup est fait, mais beaucoup reste encore à faire. Est-ce que vous avez, quand vous regardez la stratégie de lutte contre le paludisme, que ce soit au niveau de partenaires, les différents partenaires qui interviennent dans cette action, y a-t-il quelque chose que vous pouvez reprocher pour dire voilà ce qui a été comme faiblesse, parce que on fait beaucoup d'efforts, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites, mais quelles sont les faiblesses dans toutes les stratégies qui ont été définies selon vous?
Bon, je ne parlerai pas de faiblesse en tant que telle, parce que on peut dire que l'œuvre est titanique. Donc jusque là nous faisons ce que nous pouvons pour infléchir, n'est-ce pas, les tendances en termes de morbidité et de mortalité. Donc nous sommes à la tâche, hein. Donc, actuellement on ne peut pas parler de où nous sommes faibles ou nous sommes choses. Nous sommes à la tâche, nous faisons tous les efforts, n'est-ce pas, pour faire en sorte que ce fléau, je parlerai pas d'éradication, mais que ce fléau soit réduit à sa plus simple expression, comme le recommande l'OMS.
Voilà. Merci. On a aussi dans cette émission Monsieur Michel Tabou, chef de division au programme national de lutte contre le paludisme, à qui nous allons aussi accorder la parole. Je rappelle encore à nos auditeurs que Parole aux auditeurs s'épanche sur la journée mondiale du paludisme. Alors, nous dégageons ensemble avec vous les pistes des solutions pour voir comment réduire cette maladie dans votre milieu. Partout où vous êtes, vos témoignages, ce qui est fait dans votre milieu, quelles sont les difficultés rencontrées. Voilà autant de questions. Appelez-nous au 081-890-6315.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Bon, avant d'écouter Joël qui est à Kinshasa, Monsieur Michel Tabou, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Capi pour parler du paludisme. Avec Docteur Léonard Kouadio de l'UNICEF, on a parlé en termes de, en ce qui concerne les enfants, bien sûr, c'est les champs de bataille de l'UNICEF, 81 400 enfants qui meurent chaque année, de moins de 5 ans, bien sûr. Mais d'une manière globale, ça représente quoi? Quand on prend et les enfants qui meurent et les adultes, le pourcentage aujourd'hui de ces ravages du paludisme en RDC. Vous avez, on peut avoir une idée.
Merci beaucoup pour la question. La précision que je voudrais apporter, c'est que en créant le programme national de lutte, lutte contre le paludisme, le PNLP, le gouvernement de la République démocratique du Congo se sert de cet outil technique pour réduire de façon sensible les dégâts, les ravages causés par le paludisme en République démocratique du Congo. Parce que dites-vous, la République démocratique du Congo, c'est pratiquement une catastrophe dans le cadre de la lutte, parce que c'est le deuxième pays qui vient après les Nigériens en Afrique. Et figure même parmi les cinq pays les plus affectés, les plus touchés par la malaria ou le paludisme. Mais des efforts sont en train d'être consentis, sont en train d'être déployés. Et par rapport aux années, l'année passée, la République démocratique du Congo a enregistré 11 363 817 cas de paludisme. Ce que dites-vous, aujourd'hui les gens ont pris conscience que dès que quelqu'un présente la fièvre au sein de la famille, dans un foyer, au lieu de les garder à la maison, il faut l'orienter dans un centre de santé pour qu'il soit pris en charge. Et au cours de la même année, c'est-à-dire l'année 2013, la République démocratique du Congo a enregistré 30 918 décès dus essentiellement au paludisme. Mais n'empêche, l'année passée, la République démocratique du Congo a été félicitée par Madame Nafo Traoré, qui est la directrice exécutive de Roll Back Malaria, ou bien l'initiative Faire reculer le paludisme. Mais elle a insisté sur un fait, que la République démocratique du Congo est en train de réaliser des avancées, mais elle n'a pas le droit de croiser les bras. C'est pour cela que par rapport à la célébration de la Journée mondiale paludisme de cette année, le ministre de la Santé publique a décidé que nous allions vers les institutions de la République, notamment la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et là, nous estimons que son excellence, le ministre de la Santé publique, va plaider pour que ces institutions-là s'impliquent de façon vraiment, de façon honnête et de façon pour qu'elles s'engagent à offrir des moyens, beaucoup plus de moyens, surtout l'autorité budgétaire, dans les domaines de santé et particulièrement à la lutte contre la maladie.
On va revenir parce qu'il y a beaucoup de questions. Et comme le disait Dr. Leonard Kouadio tout à l'heure, la mobilisation des ressources est quelque chose de très important. Il faut un budget conséquent pour permettre à ce que la lutte soit renforcée. On va revenir à vous, mais on a eu au moins un tableau d'une manière qui puisse nous permettre de comprendre avec les auditeurs les dégâts causés par la malaria. Maintenant, on va leur accorder la parole dans leur milieu. Ils ont des expériences, ils ont des problèmes, ils ont des préoccupations autour de cette maladie. On va partager ensemble. Joël, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour, Pierrot et la Meji.
On vous écoute. Vous avez suivi nos deux invités. Et quel est votre point de vue par rapport à la manière dont la lutte contre la malaria est organisée, par exemple, ici à Kinshasa, dans votre milieu, là où vous êtes?
Oui, le plus grand problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratégie. Pour réduire les dégâts causés par la malaria, il ne faut pas attendre que les gens en souffrent pour commencer à lutter, soit à chercher à acheter des médicaments ou des moustiquaires comme on le fait là. Il faut se demander qui cause la malaria, on aura la réponse, les moustiques, et pour s'attaquer aux moustiques, qu'est-ce qu'il faut? Il faut assainir l'environnement. Même à travers la capitale, vous voyez qu'il y a des eaux qui stagnent partout là. On ne saura pas lutter contre la malaria en distribuant les moustiquaires imprégnés si les eaux-là qui produisent les moustiquaires continuent à rester comme on peut les remarquer à travers la capitale. Parce que, par exemple, le soir, avant d'aller dormir sous les moustiquaires imprégnés, on ne va pas se couvrir des moustiquaires pendant qu'on est encore là en train de regarder la télé ou en train de prendre de l'air dehors. Donc, il faut qu'on change de stratégie. Donc, qu'on cherche d'abord à assainir l'environnement, à éliminer tout ce qui amène les moustiques, et on pourra avoir des résultats. Mais tout ce qu'on fait là, on est en train de débourser de l'argent inutilement parce que ça n'aboutit à rien. Et c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à distribuer les moustiquaires. Moi qui vous parle là, En tout cas, j'ai vénéva, mais toute ma vie, en tout cas, je la passe avec des kirs. Donc, j'ai pris tous les médicaments possibles pour lutter contre la malaria. En tout cas, ça ne change pas. Même si
Joël,
il n'y a toujours pas de solution. Donc, qu'on change de stratégie.
Des stratégies, voilà. Vous pensez qu'il faut privilégier aujourd'hui l'assainissement de l'environnement?
Il se pose un problème d'environnement.
Merci beaucoup. Il se pose un problème d'environnement. On peut distiller le moustiquaire, mais dès lors que l'environnement est malsain, le problème ne sera pas résolu. Merci. Nous avons Djalonga qui nous appelle des Djougou en province orientale. Bonjour, Djalonga.
Oui, bonjour, c'est Njalonga, étudiant de l'IEC Bounia, mais pour le moment, je suis à Linga, dans mon village, dans un centre hospitalier de Linga. Donc, ici, je peux vraiment vous faire une brève situation de ce qui se passe ici chez nous.
Allez-y, oui, on vous écoute, Djalonga.
Oui, nous savons ici que souvent pour les moustiques, il faut toujours connaître que les moustiques ici chez nous, en territoire des Djougou, spécialement à Linga, vous allez trouver il y a beaucoup de flaques d'eau qui sont parties par là, sur les avenues, dans les quartiers, partout. Donc ici, vraiment les moustiques pour les malarias, c'est produit par ces vecteurs-là. Donc vous allez constater ici chez nous, lorsque les mamans viennent à la CPN, il y a le docteur Ngona qui se charge pour distribuer des moustiquaires imprégnés afin que ces mamans passent nuit sous ces moustiquaires-là pour leur empêcher au moins les mouches et les moustiques de les piquer. Mais qu'est-ce qui se passe au contraire? Ces mamans et les autres habitants, même du milieu, nous prouvent le contraire de ce qu'on passe. Vous allez constater que une fois on distribue les moustiquaires aux mamans, elles rentrent avec ça à la maison. Elles les gardent jalousement et attendent vraiment avec beaucoup de patience la période de récolte des haricots. C'est ainsi que les moustiquaires servent maintenant pour récolter les haricots au lieu de se cacher là en dessous. Donc ce sont les haricots qu'on récolte avec les moustiquaires imprégnés. Dédé, il y a ces gens-là qui viennent maintenant du lac pour se faire soigner aussi, même des mamans et les autres. On leur donne des moustiquaires, ils rentrent avec ça au lac pour la pêche des frintés. C'est vraiment grave. Donc, il n'y a pas vraiment un moyen ici, à Lingala, où je me trouve, pour qu'on puisse vraiment sensibiliser la population sur comment lutter contre le paludisme. Parce que vous allez trouver même à l'intérieur de leur maison, il y a des eaux stagnantes, on garde des eaux dans des pots, et puis ça fait beaucoup de jours, les moustiques se reproduisent partout dans le milieu. Alors, il n'y a pas moyen vraiment qu'on puisse...
On a suivi, Djalonga, ça c'est vraiment important, vous insistez qu'on puisse beaucoup plus renforcer la sensibilisation, le fait de prendre ce qui a été donné, les moustiquaires imprégnés qu'on donne, qu'on distribue au moment, les uns détournent de l'usage pour aller récolter le haricot avec ça, les autres utilisent comme filet pour la pêche, ça c'est extrêmement grave hein, par rapport aux efforts qui sont fournis. Et alors, vous insistez beaucoup sur la sensibilisation. Je crois que beaucoup de ces cas ont été répertoriés auprès des populations qui vivent tout le long du fleuve, que ce soit aussi des autres rivières. Mais il faut beaucoup plus sensibiliser la population. Merci. Judith Mamou, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour aux auditeurs.
Quand vous regardez aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi, comment s'organise la campagne contre le paludisme, êtes-vous satisfaite de ce qui s'est fait?
Oui, je vois que la réalité de Lubumbashi rencontre aussi plusieurs réalités. Je viens de suivre plusieurs intervenants. Moi, je trouve que ici, la politique n'a pas été vraiment bien étudiée. Les maisons qui sont là pour, les organismes qui sont là pour la sensibilisation et autres n'impliquent pas la population. La population ne s'approprie pas ce projet. Mm-hmm. Par exemple, vous allez voir dans beaucoup de parcelles, il y a les immondices, il y a des flaques d'eau qui traînent ici et là, mais ces flaques d'eau sont des endroits favorables ces endroits-là favorisent la reproduction des moustiques qui sont les agents causaux de paludisme. Mais la population, si elle est vraiment sensibilisée, elle doit se prendre en charge. Elle ne doit pas attendre que telle ONG, que le gouvernement vienne débarrasser tous ces immondices, toutes ces flaques d'eau pour moi. si la population s'impliquait, elle s'approprie les projets, elle sait que la lutte contre le paludisme, c'est aussi mon affaire. Moi, je vois que même les moustiquaires qu'on va distribuer, voire quand même aussi apporter quelque chose, on peut distribuer aujourd'hui les moustiquaires. C'est comme les autres le disent, on distribue les moustiquaires. Il y a ceux-là qui prennent de ces moustiquaires juste pour leurs besoins commerciaux. On va les vendre là-bas parce qu'on va me donner quelque chose. Mais oubliant que quand je vends ça, je serai aussi attaqué par les moustiques et ça sera les palus. Mais si on impliquait vraiment la population, comprenez que cette affaire m'intéresse aussi. D'une façon ou d'une autre, je dois aussi donner un plus. Je dois aménager ma parcelle, je dois aménager les alentours de ma parcelle pour que les moustiques ne se reproduisent pas et je serai épargnée. Mmh. Si la population se sent impliquée, concernée par cela, nous allons tous donner un plus à cette lutte contre
Merci.
Le paludisme.
Merci.
Et ce que je voulais aussi dire, il y a plusieurs sensibilisations qui se passent. Mais les milieux les plus reculés là ne sont pas touchés. Moi, j'ai quand même cette petite chance à sillonner dans des milieux reculés. Là, vous voyez que les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Les moustiquaires sont plutôt utilisés pour d'autres fins. On privilégie plus les grandes agglomérations, tout ça, tout ça. Mais les restes là des populations,
elles sont
à la merci des moustiques, à la merci du palud.
Merci beaucoup, madame.
Il faut qu'ils s'approprient aussi la lutte contre le paludisme. Et moi, je vois que nous allons faire un plus. C'était ça mon intervention.
Merci beaucoup, madame, de nous avoir appelé des Lubumbashi. Il faudrait qu'on puisse impliquer la population, qu'elle puisse s'approprier la lutte contre le paludisme, hein, qu'elle se sente vraiment responsable dans cette lutte et aussi voir les milieux les plus reculer plutôt que concentrer les efforts dans les grandes agglomérations. Merci. Nous allons écouter Florian qui est à Cucut. On va revenir dans ce studio pour que nos invités puissent placer un mot par rapport aux préoccupations de nos auditeurs. Florian, vous êtes à Cucut dans le Bandoulou. Bonjour.
Bonjour, monsieur le
journal. On vous écoute, Florian. Vous avez suivi notre ami Joël de Kinshasa est revenu sur l'assainissement du milieu de l'environnement. Djalonga insiste sur sa sensibilisation par rapport aux moustiquaires. Judith de Lubumbashi, madame, insiste beaucoup plus sur l'implication et le rôle que la population doit jouer dans cette lutte. Vous, Akikuit, qu'est-ce que vous proposez?
Oui, merci. Je pense que j'aborderai dans le même sens que les autres auditeurs. Je crois que beaucoup de choses sont effectuées, mais si on essaye d'analyser les facteurs qui font que le paludisme puisse rester encore un grand problème de santé, je crois qu'il y a lieu de citer parmi les facteurs qui sont en premier lieu de l'environnement, la gestion de l'environnement.
Mm-hmm.
Alors, pour moi, la proposition serait que non seulement d'impliquer cette population, mais si possible, je pense qu'il faut y arriver à des mesures coercitives. Pour amener la population à tenir les milieux, parce que nous savons qu'il y a des attitudes qui sont ancrées à la population qui font que parfois on a du mal à les convaincre à appliquer les mesures d'hygiène. Donc si les pouvoirs publics peuvent arriver à des mesures coercitives, je pense que ça pourra aussi aider. Mais pour ce qui est déjà fait, je pense qu'il y a quand même des avancées.
Merci. Merci beaucoup, Florian. Il y a des avancées pour ce qui a été déjà fait, mais en ce qui concerne la gestion, l'assainissement de l'environnement, si on peut arriver à des mesures coercitives, ça peut arriver à amener la population à pouvoir assainir l'environnement. Merci beaucoup, Akil Mali. Vous êtes à Kindo. Gardez la ligne. On va revenir à vous. Je rappelle encore à nos auditeurs que la lutte contre le paludisme, c'est au centre de notre échange dans cette émission. Vous êtes intéressé, appelez-nous au 081-890-6315.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Monsieur Michel Itabou, chef de division au programme national de lutte contre le paludisme. Vous avez suivi nos auditeurs. Je prends la préoccupation par rapport à la gestion de l'environnement. Est-ce qu'au niveau de stratégies qui sont définies par le programme, le gouvernement, on distribue le moustiquaire, mais ce qui est aussi vrai, c'est que le problème de la gestion de l'environnement, c'est un problème réel qui se pose. Alors, c'est une question transversale ou c'est seulement le ministère de la Santé?
La gestion de l'environnement intéresse tout le monde. Et c'est là d'ailleurs que nous sommes contents de la réaction des intervenants de tout à l'heure. Mm-hmm. Tous les quatre d'ailleurs. Parce que chacun reconnaît que c'est un sérieux problème en République démocratique du Congo. Moi, je crois que celui qui veut se séparer d'avec la malaria, celui qui veut chasser de son foyer la malaria, doit commencer par là. Nous sommes contents davantage du fait que beaucoup des intervenants reviennent sur l'utilisation de la moustiquaire. La moustiquaire, il faut l'utiliser chaque nuit. Il faut que les gens en fassent une sorte d'habit de nuit. De sorte que quand on passe la nuit sous la moustiquaire, on se considère comme quelqu'un qui marche pendant la journée dans les rues nues. Parce que c'est à la fois un outil de protection et ensuite c'est un produit, surtout la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Parce que les anopheles, particulièrement, il suffit qu'il vienne toucher la moustiquaire imprégnée d'insecticides pour tomber KO et mourir. Et c'est ça l'avantage que présente la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Et tous nos auditeurs, tous les intervenants sont revenus là-dessus. Et lorsque, dans nos stratégies de lutte, nous revenons plusieurs fois sur la gestion de l'environnement. Parce que l'anophèle, les moustiques vivent avec nous. Et les anopheles femelles ne se reproduisent pas n'importe où. C'est dans les eaux stagnantes, claires, ensoleillées. Quand une femme prépare par exemple une kiote et prend la boîte de tomates, la jette quelque part. Et il suffit que l'eau vienne stagner là-bas, l'eau claire, ensoleillée, c'est là que l'anophèle femelle vient pondre ses œufs. Mm-hmm. Dans les pneus usés que nous jetons ci et là dans nos parcelles, dans les épaves des voitures, dans les crevasses de murs, c'est là que les anopheles se reproduisent. C'est pas dans les eaux sales qui courent dans les terrasses de Kinshasa, ainsi de suite. C'est pour cela que vraiment nous insistons sur la gestion de l'environnement. Dans la parcelle, s'il y a de la pelouse, il faut chaque fois la couper. Mmh. Ainsi de suite.
Voilà. Mmh. On revient, docteur Léonard Kouadjo, vous avez suivi nos auditeurs. Je reviens à vous par rapport à la stratégie. Il y a bien sûr la gestion de l'environnement. Vous l'avez dit avec l'UNICEF qui travaille dans le cadre du programme Village Assaini. Mais il y a notre ami, je crois bien, c'est Madame Judith qui a beaucoup insisté sur l'implication de la population. Et quelles sont les stratégies qui font aujourd'hui qu'on puisse aller à la base avec cette lutte contre les paludismes pour qu'il n'y ait pas, que la population n'ait pas cette impression que les décisions, les solutions leur sont amenées, mais eux-mêmes participent à l'élaboration de stratégies pour lutter contre le paludisme dans leur milieu.
Merci. Je vais abonder dans le même sens que Monsieur Itabou. Pour dire que la lutte contre le paludisme est une lutte multisectorielle. Mmh. Ce n'est pas uniquement le secteur santé qui doit s'approprier la lutte contre le paludisme. Je dirais même au contraire que le secteur santé devrait venir en dernier moment si la phase de prévention a échoué, qu'un malade arrive. Ce serait, je dirais, de la responsabilité entière du secteur santé. Mm-hmm. Mais, comme l'a dit Michel, tout ce qui concerne l'environnement, ça, c'est chaque famille, chaque ménage qui doit donc se débarrasser de tous ces débris, de tout ce qui peut retenir l'eau autour de l'environnement, tout ce qui peut constituer ce qu'on peut appeler dans le jargon les gîtes de reproduction des moustiques, cet environnement doit être assaini. Et ça, chacun à son niveau a sa part de responsabilité, depuis les ménages et jusqu'au pouvoir public. Parce que ce n'est pas le pouvoir public qui va entrer dans chaque ménage pour débarrasser des saletés que le ménage lui-même produit. C'est quand ça arrive dans justement la voie publique que le pouvoir public a cette responsabilité. Donc, vous voyez, c'est chacun et main dans la main que nous pourrons ensemble vaincre ce fléau. Sinon, si on se dit non, c'est seulement le secteur santé qui doit s'occuper de la lutte contre le paludisme, nous allons toujours échouer et nous allons échouer ensemble.
Mais donc, effectivement, c'est ça même l'impression qu'on a aujourd'hui quand on parle de la lutte contre la malaria. On regarde plus les secteurs de santé, sont celui des moustiquaires. Mais y a-t-il un travail, comme je le disais tout à l'heure, vous avez multisectoriel. Avez-vous des rencontres avec d'autres ministères, d'autres secteurs qui ne sont pas de la santé, par exemple, dans la définition des stratégies?
Bien sûr. Bien sûr que nous avons un travail un texte extérieur. Je prendrai ne serait-ce que l'exemple avec le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, la sensibilisation se fait à travers les enfants dans des écoles. Mm-hmm. Nous savons que l'enfant est un véritable moteur de mobilisation au niveau de chaque ménage. Et donc, nous avons compris que en nous associant au secteur de l'éducation, la lutte va encore connaître un meilleur succès. Pour revenir à l'auditeur de la province orientale
de Djougou,
qui parlait donc de la distribution des moustiquaires en routine lors de la CPN et qui par la suite sont utilisés à d'autres fins. Je dirais que là, c'est parce que au niveau du point de distribution, un travail de mobilisation et de sensibilisation n'a pas été fait correctement. Mm-hmm. Parce que je ne peux pas comprendre que une maman qui est enceinte, qui sait quel coût le risque de perdre son enfant, va aller cacher la moustiquaire sous le lit et attendre la saison de haricots avant de l'utiliser. Donc je pense qu'il faut que au niveau de tous les points de distribution de moustiquaires, que ce soit en routine, que ce soit lors des campagnes de distribution en masse, il faut que les messages soient adressés aux mamans et à tous ceux qui viennent recevoir cette moustiquaire. Il ne faut pas donner la moustiquaire comme un cadeau de Noël pour dire, bon, et voilà, chacun, voici. Non, il faut accompagner cela d'un message pour dire, il faut l'utiliser, parce que ça vous permettra de vous protéger contre la malaria.
Oui, nous avons Akilima qui est à Kindu, Mathieu à Kananga, Cosmas à Kisangani. Rapidement, monsieur Michel Itabou, par rapport à cette question de ce qu'on fait de moustiquaires qu'on distribue. On a vu à Kinshasa la campagne, les moustiquaires ont été distribués, nous les avons reçus. Mais tout de suite, il y a une cassure entre les points de distribution, comme le disait tout à l'heure docteur Kwadjo, entre les points de distribution et ceux qui vont les utiliser. Mais j'ai vu ailleurs, ici en RDC, dans une ville où de relais, je ne sais pas utiliser les termes relais communautaires, je les ai vus se rendre sur terrain pour s'assurer exactement, assister même les familles pour leur montrer voilà comment placer la moustiquaire. Est-ce qu'on peut espérer que cette chaîne peut continuer entre les points de distribution jusqu'à la consommation finale pour qu'on soit sûr qu'effectivement la moustiquaire était utilisée correctement?
Merci beaucoup Pierrot pour cette question. Vous aurez constaté que bien avant la campagne, nous nous sommes battus bec et ongle dans les chaînes de télévision et nous jetons d'ailleurs pour cela des fleurs à Radio Okapi, votre radio, parce que nous nous sommes servis de ce canal-là pour informer le public kinois.
Merci.
Là, c'était avant la campagne, parce qu'il fallait d'abord démontrer au public l'avantage de la moustiquaire et à quoi il sert. C'est après cela, après avoir créé ces besoins-là, que des gens ont été formés. Mm-hmm. Et des gens ont été formés dans tous les domaines, sur le plan logistique, sur le plan communicationnel, ainsi de suite. Et pendant la campagne, les messages ont été diffusés. Après la campagne, les messages ont été diffusés. De temps en temps, je suis dans les chaînes de télévision, pendant les grandes compétitions sportives, mm-hmm. pour continuer à informer la population comment utiliser la moustiquaire, comment l'entretenir. Je crois qu'au niveau des zones et des centres de santé, il y a des relais communautaires formés à cet effet-là pour perpétuer cette campagne, pour relayer davantage les messages sur l'utilisation de la moustiquaire.
Et se rendre compte effectivement que la moustiquaire a été utilisée correctement.
Oui, justement.
Voilà, on va revenir à vous. Les auditeurs sont encore avec nous. Je rappelle encore le numéro d'appel. Si vous avez besoin de déplacer et mot intervenir, un témoignage par rapport à la lutte contre le paludisme, appelez-nous au 081 890 6315.
Parole aux auditeurs.
Akilimali, vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour.
Bonjour, monsieur Perrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute. Vous avez suivi les uns et les autres. Au-delà de ce qui a été dit par les autres, vu l'expérience de votre milieu, là où vous êtes à Kindu, qu'est-ce qui doit être fait dans cette lutte contre le paludisme pour répondre aux réels besoins que vous avez à Kindu?
Merci, monsieur Pierrot. J'aurais d'abord trois questions à poser à notre invité, mais avant que je les pose, je voulais juste intervenir. Monsieur Pierrot, nous sommes en train d'assister à des phénomènes catastrophiques ici à Kine. Les moustiquaires sont chaque fois distribués à la population, mais plutôt, ce sont des moustiquaires qui sont devenus des objets pour fermer les plantations, les jardins, ainsi de suite, et utilisés pour garder les padis, les haricots. Bon. Tout cela, nous ne savons pas. Qu'est-ce que l'État est en train de proposer sur ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'État puisse aider attribuer les gens pour faire les contrôles et arrêter tous ceux-là qui ne peuvent pas se mettre à nos... Alors, mes questions. La première question que je voulais poser à notre
oui.
À part d'abord le moustique du genre Anopheles, quel moustique encore tu peux transmettre du paludisme? La deuxième question est de savoir quelle différence y a-t-il entre mycomatose et paludisme? Et puis pour terminer, quels sont les médicaments qu'on peut prendre pour lutter contre le paludisme? Parce qu'ici, nous sommes en train de voir, lorsque quelqu'un est attrapé par le paludisme, il suffit d'arriver à un centre de santé, il est tout justement mis sous sérum. On ne sait pas si ce sérum-là qui est vraiment destiné seulement à lutter contre le paludisme ou pas. Est-ce qu'il y a autre médicament approprié pour lutter contre le paludisme à part le sérum? Et si dans le sérum, il n'y a que des quinines qu'on met là dedans, est-ce qu'à part ce sérum, à part les quinines, il n'y a pas autre médicament?
Alors, merci beaucoup à Kilimali, on vous a suivi. Je crois que ça a été dénoncé même une fois, je me rappelle dans l'émission Parole aux auditeurs, il y a plus d'une année passée en Mbandaka, dans la province de l'Équateur aussi, où des gens ont utilisé les moustiquaires imprégnés qui ont été distribués pour comme filet pour la pêche. Vous souhaitez que dans ces cas, qu'on puisse contrôler et arrêter tous ceux qui posent de tels actes. Et vous avez posé trois questions à nos invités. Y a-t-il un autre moustique qui transmet la maladie en dehors de l'Anopheles, la différence entre le paludisme et mycomatose? Bon, on va voir avec les spécialistes en santé ce que ça veut dire, et puis le médicament par rapport à la prise en charge. Merci. Mathieu, vous êtes à Kananga, au Kassa Occidental. Bonjour.
Oui, merci bien pour la parole, monsieur le journaliste Pierrot.
On vous écoute.
Je félicite les invités. Bon, d'abord, en fait que je sache, que je porte une petite... connaissance aux nombreux auditeurs qui nous écoutent présentement à travers votre micro. Quant à moi, il existe quatre types de paludisme, à savoir Plasmodium, falciparum, Plasmodium vivax, ainsi que le Plasmodium malarié, sans oublier le Plasmodium ovale. Le paludisme est une maladie caractérisée par des épisodes fébriles aigus. Les symptômes apparaissent au bout de 7 jours ou plus, généralement 10 à 15 jours après la piqûre de moustique infectante. S'il n'est pas traité dans les 24 heures, le paludisme à Plasmodium falciparum peut évoluer vers une affection sévère, souvent mortelle. La lutte antivectorielle reste le principal moyen de réduire la transmission du paludisme au niveau communautaire. Mais pour les personnes, la protection individuelle contre les piqûres des moustiques représente le premier moyen de défense contre les paludismes. Nous ne pouvons pas oublier qu'il existe jusqu'à ce jour des formes de lutte antivectorielle qui sont efficaces dans beaucoup de situations. Ce sont les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Les moustiquaires... Et les pulvérisations d'insecticides à effet rimanent à l'intérieur de l'habitation. Et revenons d'abord pour le cas de notre pays, la République démocratique du Congo. Des statistiques révèlent de plus en plus que le paludisme tue plus que la plupart des maladies, même le plus redouté tel que le sida, par exemple. Rien qu'à ce premier trimestre 2014.
Oui, oui. Mathieu, pour permettre aux autres auditeurs, parce qu'ils sont très 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 nombreux, il y a eu même déjà des précisions avec notre invité. Vous êtes à Kananga. Merci beaucoup pour les éléments, quand les auditeurs ont la maîtrise quand même de la situation, des chiffres et des explications. Ça, c'est vraiment très très important. Ça permet de vous engager vraiment dans la lutte. Mais aujourd'hui à Kananga, Mathieu, en un mot, rapidement, qu'est-ce qui doit être fait par la population pour s'approprier cette lutte, Mathieu? Malheureusement, on a perdu Mathieu qui était à Kananga, mais qui a beaucoup réuni beaucoup d'éléments autour du paludisme. Cosmas, vous êtes à Kisangani, dans la province, en province orientale. Bonjour, Cosmas.
Oui, bonjour Pierrot.
On vous écoute, vous avez suivi les uns et les autres, Cosmas. Au-delà de ce qui a été dit par les autres auditeurs, qu'est-ce qui doit être fait efficacement dans votre milieu?
Oui, d'accord, merci pour cette parole que vous me donnez encore, ça fait longtemps. Et je suis Cosmas Mouniangui, ici à Kisangani. Ce que je veux dire en ce qui concerne la solution à donner pour lutter contre le paludisme ici chez nous au Congo, et précisément dans la ville de Kisangani, c'est quoi? Alors, il y a d'abord les problèmes.
Dommage qu'on a perdu Cosmas de Kisangani, mais on reste dans la même ville parce qu'il y a aussi Pichu qui est en ligne. Le contact téléphonique avec Cosmas s'est interrompu brusquement. Nous restons à Kisangani avec Pichu. Pichu, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot.
On vous écoute Pichu. Cosmas,
Pense que pour lutter contre le paludisme, vaut mieux s'attaquer plutôt au lieu de s'attaquer aux effets. Parce que nous savons tous que le paludisme tire son origine juste des moustiques anopheles. Or, les moustiques anopheles tirent son origine des terrains marécagés, communément appelés mares. Or, pour mettre fin à cela, il serait bien que les organisations chargées de lutter contre le paludisme puissent proposer un meilleur programme auprès de notre gouvernement, en fait, de détruire plutôt les terrains marécagés, communément appelés les mares. Au lieu de se focaliser seulement à donner des moustiquaires aux gens, des produits pharmaceutiques. Or, cela n'est pas comme priorité. Parce que ce qui est plus mieux d'abord, c'est de constituer les traitements préventifs, non curatifs. Parce que le fait de s'attaquer d'abord à des terrains marécagés, cela réduira le nombre de personnes vivant avec les malarias. Parce qu'il faut voir, il y a au moins plus de gens qui vivent des malarias, parce que nous voulons plus traiter. Or, si on s'attaque aux terrains marécagés, cela mettra fin directement au règne des paludismes.
Merci beaucoup.
Comme contribution.
Merci Pichu, vous revenez sur l'assainissement de l'environnement. On revient à vous, docteur Léonard Kouadjo. Vous avez suivi Kilimali de Kindou. Il posait trois questions. Si on peut répondre directement qu'il n'y a pas eu un autre. Y a-t-il un autre moustique qui peut causer la malaria en dehors de la Nofel?
Je dirais non.
Il n'y a que la Nofel.
Non, il y a. Le paludisme est une maladie parasitaire qui est transmise par la Nofel. Dans le cadre de la République démocratique du Congo, c'est précisément pour les scientifiques, l'Anopheles gambien C, qui est responsable du paludisme à plus de 92% au niveau du Congo. Bon, je vous épargne.
Oui, oui, c'est trop scientifique et technique.
Voilà, mais
oui.
Donc, pour être précis, le paludisme est transmis à l'homme par un moustique appelé Anopheles. Et plus précisément, c'est l'Anopheles femelle qui transmet donc
Pour les auditeurs, c'est pas de savoir quel type, mais c'est de s'atteler tout simplement à lutter contre l'Anopheles, mettre la moustiquaire, mais aussi assainir l'environnement.
C'est cela. Voilà. Et donc, je voudrais aussi revenir sur, certainement au risque de nous répéter, pour dire que la lutte contre le paludisme embrasse plusieurs stratégies, lesquelles stratégies doivent se compléter. Je dis bien, parce que quand vous prenez la moustiquaire, un auditeur l'a dit, la moustiquaire, pendant que vous êtes dehors, le moustique peut vous piquer. C'est quand vous allez dormir que la moustiquaire vous protège. Donc ça veut dire que le temps que vous restez dehors, il faut que l'environnement soit sain pour que les moustiques ne viennent pas au salon.
Oui.
D'accord. Maintenant, quand vous allez dormir, parce que l'activité de l'Anopheles est intense entre 21h et 5h du matin. Voyez-vous? Donc, c'est évidemment cette période-là que nous sommes le plus souvent au lit. Et donc, c'est pour ça que nous préconisons la moustiquaire. Mais en même temps, il faut associer les autres mesures d'assainissement à cette...
Michel Itabou, vous avez suivi l'auditeur par rapport au traitement, à la prise en charge. Nous voulons pas faire vraiment le débat autour de médicaments pour ne pas amener la confusion chez nos auditeurs pour savoir quelqu'un risque d'aller en pharmacie, s'acheter un médicament parce qu'on l'a dit à la radio. Docteur, vous voulez placer un mot parce qu'il y a un auditeur qui a beaucoup insisté pour savoir, mais après tout, nous soigne avec quoi? La quinine, les perfusions, mais ou juste oui. avec quoi on peut nous soigner?
Ok, avant que monsieur Michel ne prenne la parole sur cette question, je pense que il y a deux formes de paludisme. D'abord, la porte d'entrée, c'est la fièvre. Donc, quand quelqu'un a la fièvre, qu'il vient au centre de santé, la première des choses qui est faite actuellement, c'est de faire un test pour s'assurer que c'est effectivement le paludisme. Aujourd'hui, il y a des tests rapide qui existe, qui est utilisé sur le terrain à tous les niveaux, dans tous les centres de santé. Une fois que le diagnostic est confirmé par le test, alors on passe au traitement. Et le traitement actuel préconisé, c'est la tésinate associée à la modiaquine, qu'on appelle couramment l'ACT. D'accord? En comprimé. Pour les cas simples. D'accord?
Oui.
Bien sûr, le cas simple ou compliqué, c'est le médecin qui fera le diagnostic pour, n'est-ce pas, apprécier l'état de l'état simple ou compliqué. Bon, il y a des thèmes médicaux qui permettent de le classer. Et lorsqu'on qu'on a un échec thérapeutique de par exemple du cas simple, c'est-à-dire que si le malade commence à vomir, qu'il ne peut pas prendre les comprimés. En ce moment-là, seulement, on passe à une étape, à une autre étape, qui passe par la voie veineuse, ce qu'on appelle communément les perfusions et autres. Donc, voici un peu, de façon caricaturée, sans rentrer dans les détails, comment la prise en charge se fait.
Alors, on revient à vous, monsieur Michel Itabou, chef de division au programme national de lutte contre le paludisme. Vous avez suivi les auditeurs par rapport à ceux qui détournent l'usage du moustiquaire, mais il y a aussi la responsabilité de la police, des pouvoirs publics. C'est pas tout le temps, bien sûr, au ministère de la Santé. Quand un policier passe et trouve qu'une moustiquaire est utilisée comme filet, en principe, il doit se saisir de la personne pour arriver à corriger les gens. C'est-à-dire qu'il faut associer, il faut les associer. Mais aujourd'hui, par rapport à la prise en charge, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à la population? Parce qu'on sait tout ce qui se passe aujourd'hui quand on est malade dans notre pays. Et puis, qu'est-ce qu'on pouvait dire?
Nous sommes contents de cette émission, du fait que la plupart des réponses aux questions posées viennent même des intervenants dans cette émission. La lutte contre le paludisme est systémique et il faut la considérer comme telle. C'est comme venait de dire Dr Kouadio. On ne peut pas dire que non, je passe la nuit sous la moustiquaire, mais je vais rester dans un milieu insalubre. Non, ça ne va pas. De la même manière que le milieu doit être tenu propre, de la même manière, il faut passer chaque nuit sous la moustiquaire. De la même manière, quand une femme sent déjà les premiers mouvements de l'enfant dans le ventre, au lieu de perdre le temps, elle doit aller directement à la consultation prénatale pour recevoir les deux doses de SP, de sorte à se protéger, elle et le bébé qu'elle porte dans le ventre contre la malaria.
Et là, quand vous parlez de doses de SP, c'est par rapport à la prévention. C'est-à-dire qu'un médicament qu'on prend pour prévenir la malaria.
Oui, justement. C'est mise ensemble de toutes ces stratégies que nous saurons mener convenablement la bataille contre la malaria.
Et on va revenir à vous pour conclure cette émission. Après avoir écouté les deux auditeurs, le dernier bien sûr, il y a Francis qui est à Kinshasa et Capitao qui est à Moba dans le Katanga.
Parole aux auditeurs.
Francis, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à nos invités ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Merci de vous joindre à nous pour cet échange. On vous écoute Francis.
Ok, merci beaucoup. D'entrée de jeu, j'aimerais souligner juste un petit problème. C'est une grande honte qu'un pays à dimension continentale comme la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir une stratégie adéquate pour mettre fin au paludisme. 81 000 personnes, c'est presque toute une ville qui meurt chaque année. D'où, puisque c'est tout à fait difficile de parler en dernier lieu, puisque bon, les prédécesseurs ont presque tout dit, mais ce que j'aimerais dire au gouvernement, c'est quoi? La santé des individus est garantie d'ailleurs par la Constitution. Quand vous voyez l'article 48 de la Constitution, les droits à un logement décent est garanti. La nuit, nous sommes dans les moustiquaires. La journée, nous devons être à l'extérieur. C'est ça, le logement décent. Alors, il faut qu'il y ait une politique de suivi Par rapport à l'environnement, il faut sanctionner ceux qui n'arrivent pas à entretenir leurs parcelles et sanctionner aussi ceux qui détournent l'utilisation des moustiquaires, par exemple, comme mes prédécesseurs viennent de le dire. Et j'aimerais terminer, puisque le temps qui m'a été imparti est assez limité, j'aimerais terminer en disant que l'allié inévitable de l'échec, c'est l'impréparation. Tant que le gouvernement congolais ne prendra pas les choses en main, tant que le gouvernement ne préparera pas une solution adéquate et définitive pour éradiquer le paludisme, en tout cas, la solution, les problèmes, allais-je dire, ne fera que s'empirer.
Merci. Merci beaucoup, Francis. Il faut une stratégie adéquate. Il faut prendre le problème au sérieux, sanctionner ceux qui ne assainissent pas leur environnement et ceux qui détournent l'usage de la moustiquaire. Capitao, vous êtes à Moba dans le Katanga. On termine avec vous au nom des auditeurs. Capitao, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bon, ici chez nous à Moba, je déplore un comportement. On nous dit souvent que c'est dans des centres de santé, aussi dans des postes de santé, c'est là où il faut se diriger quand vous tombez malade. Mais nous constatons que l'environnement des centres de santé, aussi des postes de santé, n'est pas bon. Il y a des eaux stagnantes, il n'y a pas de toilettes et il y a des erreurs. Quand est-ce qu'on peut dire que nous allons là-bas, c'est pour être guéris. Et puis, Dédé, M. Dialonga a déjà dit, il y a aussi chez nous un cas. Trop amer, il y a des moustiquaires qu'on utilise pour couvrir les jardins. Et mes deux préoccupations que je voulais.
Merci. Merci beaucoup, Capitao. Vous êtes très inquiet. On vous demande d'assainir l'environnement quand vous êtes malade, d'aller à l'hôpital. Mais curieusement, tout autour des centres de santé, des postes de santé, il y a aussi l'environnement est malsain. Comment alors vous pouvez être sauvé? Le problème du détournement de l'usage des moustiquaires. Voilà. Autant de questions, autant de préoccupations, mais qui ont tourné autour de la même, je peux dire ainsi, stratégie. On revient à vous, Michel Itabou. Par rapport à la journée de demain, qu'est-ce qui est organisé pour attirer l'attention des uns et des autres sur la lutte contre le paludisme d'une manière brève?
En tout cas, merci beaucoup pour cette question. J'apporte d'abord une précision. La journée sera célébrée lundi. Tous les partenaires se mettront autour de son Excellence le ministre de la Santé et qui ira faire un plaidoyer devant le président de la République, devant les premiers ministres, devant les présidents de l'Assemblée nationale et devant les présidents du Sénat, avant de chiter à Bandal pour sensibiliser. La célébration de la journée mondiale du paludisme, c'est une occasion qui s'offre à tous les pays endémiques pour prendre un engagement de mener convenablement la lutte jusqu'à l'élimination du paludisme. Et c'est pour cela que Kinshasa, la République démocratique du Congo, a décidé de se joindre à d'autres nations qui vont célébrer cette journée. Il ne va pas le faire demain, mais ce sera lundi, parce que le ministère voudrait mener ses plaidoyers en un plaidoyer axé sur les résultats. Merci. De sorte à ce que la présidence de la République, parce que le chef de l'État a déjà parlé de la malaria à la tribune des Nations Unies. Le premier ministre qui s'est investi, parce que petit à petit le budget de la santé est en train d'être revu à la hausse, mais surtout l'autorité budgétaire, l'Assemblée nationale et le Sénat pour qu'ensemble on se serre les coudes et continuer à mener ces combats contre la malaria.
Voilà, merci. Nous revenons à vous aussi, docteur Léonard Kouadio, parce qu'on doit conclure cette émission. Vous, en tant que partenaire, quelles sont les quelques pistes pour l'avenir à proposer aussi au gouvernement pour espérer vraiment qu'on puisse garder un cap positif dans la lutte contre le paludisme? Et ça permet aussi de conclure cette émission.
Ok, merci. Mais avant de revenir à votre question, je voudrais apaiser M. Francis de
Kinshasa,
de Kinshasa, qui affirme que la RDC n'a pas de
stratégie. Il y a une stratégie adéquate, voilà.
De lutte. Je suis désolé de vous dire que la RDC a bien un plan stratégique, qui n'est pas le premier plan stratégique, où toutes les stratégies dont nous débattons ici sont inscrites noir et blanc. Et c'est au vu de cette feuille de route que nous travaillons sur le terrain au bénéfice de la population. Donc, voilà. Donc, pour revenir à votre question, je dirais que l'UNICEF est et restera étroitement aux côtés donc du ministère de la Santé pour appuyer la lutte contre cette pandémie. Et chaque année, ou je dirais chaque jour que Dieu fait, nous sommes aux côtés donc de notre partenaire pour l'appuyer dans tous les domaines, là où le besoin se fait sentir. Donc voici en gros ce que je peux vous dire.
Et en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut, quel message vous lancez à la population, Monsieur Michel Itabou?
Le message est clair et simple. Chacun est responsable chez lui de mener la lutte contre le paludisme, de rester dans un environnement sain, d'appliquer les mesures préventives que nous déclamons chaque jour dans les chaînes de radio, dans les, et même à la radio, et de suivre les conseils des médecins. Il n'y a pas meilleure façon de combattre la malaria que d'appliquer, de mettre en pratique ces mesures-là, et de rester dans un milieu sain, et de passer toutes les nuits sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Dites-vous, Pierrot, quand moi aussi je n'avais pas été encore suffisamment été informé de la malaria, tout le temps, en tout cas, l'argent que je recevais de cette main-là sortait de l'autre main. Mais moi, je vous dis, il m'arrive, et je l'ai dit à haute voix, merci, il m'arrive des fois de passer une année chez moi à la maison sans sortir un sou pour les traitements de la malaria. Merci. C'est un problème de discipline et d'ordre.
Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Docteur Léonard Kouadio, spécialiste en santé publique, chargé du programme de la malaria à l'UNICEF, et Monsieur Michel Itabou, chef des divisions au programme national de lutte contre le paludisme. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci. On se retrouve demain, vendredi. Nous allons parler de deux choses. Hein. Il y a les retraits des licences d'exploitation aux compagnies aériennes qui ne répondent pas aux normes décidées ainsi par le ministère des Transports et voire des Communications, mais aussi la création de la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways. Ces deux questions seront au centre des paroles aux auditeurs demain. Qu'est-ce que vous en pensez? On se retrouve à 11h30, heure de Kinshasa. Merci à Sylvain Matundu, Berry Franklin Luchaka qui nous ont aidés à produire cette émission supervisée par Nicole Ngaka. Vous allez retrouver cette émission ce soir à 20h30, heure de Kinshasa. Ça en rediffusion, mais aussi sur www.radiocapi.net. Au revoir.